Comme pour investir, la boîte à outils.
François-Xavier Sœur de Terra et bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors on va un petit peu, c'est comme le bullshitomètre de BFM Bourse, on va tordre le cou à certaines idées reçues. L'assurance vie est un placement universel, un couteau suisse, il convient à tout le monde. Faux. Non. Bullshit.
Absolument. Dans BFM Bourse, vous mettez le voilà, l'orage à ce moment-là.
Oui, oui absolument. Et donc, non, on peut être victime d'erreurs d'aiguillage. Il y a des cas de figure où c'est pas forcément le truc à préconiser. Et vous avez relevé 4 cas.
Exactement.
Où effectivement, ça peut s'avérer être une mauvaise idée.
En fait, l'assurance vie, c'est un produit. Ça peut pas être une stratégie patrimoniale. C'est-à-dire que quand on fait une stratégie patrimoniale, on fait du juridique, on fait du financier, on peut faire du produit, mais ça peut pas constituer toute la stratégie patrimoniale. Et vous avez certains de mes confrères qui sont quasiment à 100% de leur chiffre d'affaires en assurance vie. C'est problématique. C'est-à-dire que quand la réponse à « je veux faire de la retraite, je veux épargner, je veux réduire ma fiscalité, etc. », c'est un produit. À un moment, on disait « Pinel, 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 Pinel ». Maintenant, certains, ils disent « voilà ». Après, ils ont dit « PER, PER, PER ».
Avec ces grands parcs de lotissements infinis construits n'importe comment, qui attendent encore des gens dedans, oui.
Oui, alors quand ça a été vendu effectivement dans des zones sans tension, et puis même quand il y a eu des zones avec tension, je vous invite à demander aux notaires qui passent sur votre plateau, quand ils vendent des produits de défisc, à combien ils les vendent.
Aïe, aïe, aïe.
Mais en tout cas, l'assurance vie, voilà, faut faire attention à l'approche produit, il faut avoir une stratégie patrimoniale. Et effectivement, vous avez des cas où il n'y a pas d'intérêt à faire de l'assurance vie, ou alors en diversification. Le cas le plus parlant, c'est un couple marié qui n'a pas d'enfant. Un couple marié qui n'a pas d'enfant, depuis la loi, alors ça c'est Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir en 2007, il a supprimé les droits de succession entre époux. Quand vous décédez, entre vous, il n'y a pas de droits de succession. Et il y a beaucoup de clauses bénéficiaires qui ont été faites au profit du conjoint. Donc vous exonérez, avec un produit fiscal qui est l'assurance vie, des sommes au profit de quelqu'un qui est exonéré par la loi. Donc ça ne sert à rien.
Oui.
Et vous avez quand même beaucoup de personnes aujourd'hui, quand même beaucoup de couples en France qui n'ont pas d'enfants et qui n'en auront jamais, et où la personne à protéger, c'est le conjoint. Point.
Et alors là, à ce moment-là, dispositif classique, la donation au dernier vivant, ou
voilà, la donation, c'est la partie juridique, mais sur la partie produit et investissement,
oui.
Faites du PEA, faites du compte-titre, faites de l'immobilier, faites tout ça.
Des trucs qu'on ferait pour soi.
Voilà.
Et puis
et éventuellement, en diversification, faites de l'assurance vie. Mais vraiment parce que vous avez envie d'avoir du fonds euro, parce que vous vous dites peut-être qu'un jour, je voudrais privilégier quelqu'un d'autre que mon époux ou mon épouse. Mais ça ne doit pas être le centre de la stratégie patrimoniale. Attention, également, c'est le cas des pacsés. Entre partenaires de pacs, il n'y a pas de droit de succession, à condition d'avoir mis un testament. Parce que quand on n'est pas pacsé, mais qu'il n'y a pas de testament, on n'est pas héritier l'un de l'autre.
D'accord, ok.
Vous
donc ça, il faut que ce soit un dispositif à part.
Vous êtes pacsé, vous avez un enfant, votre héritier, c'est l'enfant si vous n'avez pas fait un testament. Donc voilà, attention, attention à ces cas-là.
Bon, et puis à la fiscalité aussi. Est-ce qu'il y a des... On fait un crash test. Est-ce qu'il y a des cas où la fiscalité de l'assurance-vie peut finalement être défavorable par rapport à d'autres genres de supports?
Bien évidemment. Et il faut faire attention au cas où vous allez vider votre patrimoine. En fait, lorsque vous liquidez une succession, on fait une liquidation civile puis une liquidation fiscale. La liquidation civile, c'est qui récupère quoi. La liquidation fiscale, c'est qu'est-ce qu'on doit au fisc. Et quand on fait cette liquidation fiscale, on la fait donc hors assurance-vie. L'assurance-vie, on la traite à part sur le plan fiscal.
D'accord.
Lorsque vous recevez une somme, je fais le cas des enfants aux parents. Lorsque vous recevez une somme de vos parents, vous avez un abattement de 100 000 et... Au-delà de cet abattement de 100 000, jusqu'à 16 000 euros, vous êtes taxé de 0 à 15 %. Et entre 16 000 et 550 000 euros reçus de vos parents, vous êtes taxé à 20 %.
D'accord.
L'assurance vie, vous êtes exonéré en tant que bénéficiaire d'un contrat assurance vie jusqu'à 152 500. Et au-delà, vous êtes à 20 %. L'idée, c'est qu'en France, quand vous avez un peu de patrimoine, que vous avez 200, 300, 400 000 euros de patrimoine, vous devez jouer sur cette tranche à 20 %. Parce que c'est globalement celle... il faut optimiser les tranches inférieures et jouer sur la tranche à 20%. Le risque, c'est quoi? C'est de basculer sur la tranche suivante de l'assurance vie à 31-25 ou de vider tellement le patrimoine perso, parce que quand vous êtes âgé, quand vous avez 80-85 ans, vous faites des donations et vous consommez, parce que généralement les besoins augmentent. Le risque, c'est de vider le patrimoine perso, de garder ce qu'il y a sur l'assurance vie et de se retrouver pour les héritiers moins taxés sur les droits de mutation à titre gratuit issus de la succession, que ce que vous allez payer en assurance.
D'accord.
Donc, il faut régulièrement rééquilibrer ça. Et voilà, le point de flottement pour 90% de ceux qui ont une succession et qui ont du patrimoine,
c'est les 20%.
C'est les 20%. Essayez de rester sur cette tranche avant.
Non, mais ça, oui. Et puis,
C'est pour ça, une stratégie patrimoniale, ça se met en place et ça se suit.
Exactement.
Vous devez la revoir, la clause bénéficiaire, vous devez la revoir chaque année. Moi, chaque année, je renvoie la clause bénéficiaire à mes clients. Parce qu'il faut la relire. C'est extrêmement, extrêmement important.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres cas qui sont justement défavorables quand on choisit l'assurance vie?
Et un cas qu'on oublie, qui est majeur et pour des personnes protégées. Vous avez un cas qui est particulier, et j'ai le cas, pour le coup, dans mon cabinet.
D'accord.
C'est le cas d'une famille dont le père de famille a eu un gros accident de la vie, indemnisation, responsabilité civile, donc de plusieurs millions d'euros.
D'accord.
Sauf que lorsque vous avez une indemnité, il y a un dommage corporel, c'est exonéré en cas de succession.
D'accord.
Sauf que là, le bénéfice duquel on parle, dans le cas présent, c'est plus de 5 millions d'euros. Ces 5 millions d'euros, vous les mettez sur un contrat d'assurance vie décès fiscalisé à 31,25% pour la tranche la plus haute. En direct, 0%.
Ah oui, oui, d'accord.
Okay. J'ai été consulté avec un autre CGP. L'autre CGP mettait tout en assurance vie, je précise, avec 75% sur les fonds structurés. Bon, je pense que lui, il s'est dit, je prends mes 5% de droit d'entrée sur 5 millions d'euros et c'est fait.
C'est ça.
Mais surtout, il y avait cette grosse question de succession, c'est-à-dire que les héritiers se faisaient massacrer à la succession.
Mais c'est ça, c'est...
Et le conseiller de base avait été recommandé par une association de victimes. Donc, je voudrais juste dire aux personnes qui sont dans ces cas-là, faites extrêmement attention, parce que quand on est dans ces moments-là de grande souffrance, que ce soit d'accord, je peux vous dire que vous préférez la famille ne pas avoir 5 millions d'euros et garder la situation d'avant. Ça, je peux vous signer 10 fois.
Hein. Oui.
Mais attention dans ces moments-là, qui sont des moments de grande tension et de grands mouvements patrimoniaux en même temps, à ne pas vous faire avoir par des margoulins ou par des personnes qui ne sont juste pas formées. Et je lance vraiment un appel aux associations de victimes. Faites attention à qui vous recommandez.
Non, c'est clair.
Parce que dans ces moments-là, peut-être que vous avez des personnes que vous considérez comme personnes de confiance, mais qui ne sont pas forcément à l'aise sur ces personnes que sont les majeurs protégés et sur cette classe d'actifs, sur ces sommes issues d'indemnités qui sont quand même extrêmement particulières.
Et puis, ça reprend un petit peu le cas d'avant, c'est énorme. Et donc,
31,25 sur 5 millions.
Voilà, non, c'est... Dernier cas, quand on commence à se construire un patrimoine, quand on est jeune, c'est peut-être pas non plus le moment rêvé de directement passer à l'assurance vie.
Commencer par l'assurance vie, moi, je suis pas fan de ça.
Ouais.
Quand on est jeune, on a du temps devant soi. Moi, j'aime le PEA. Voilà. C'est pour ça que j'aime regarder BFM Bourse l'après-midi. J'aime les PEA, j'aime investir en bourse, j'aime aller chercher des choses qui, quand on rentre sur un produit d'assurance vie tout de suite, vous rentrez sur quelque chose qui généralement va être du garanti en capital. Donc le risque quand on a du garanti en capital, c'est d'avoir des sommes qui vont être placées très longtemps et qui ne vont pas permettre d'aller générer les plus-values nécessaires pour développer un patrimoine. Et rentrer dans une culture financière tout de suite, commencer à épargner, aller vers autre chose que vers de l'assurance vie. Gardez-vous de côté l'apport pour de la résidence principale, si vous savez que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez faire de l'apport, vous êtes un salarié ou un chef d'entreprise avec une boîte qui commence à tourner ou une profession libérale, vous commencez à dégager des salaires, mettez-en une partie de côté pour la résidence principale, commencez à construire votre patrimoine. Si vous n'avez pas d'enfants, vous ne lancez pas tout de suite dans une logique d'assurance-vie. Même logique si vous êtes des parents et que vous ouvrez des contrats assurance-vie à des mineurs.
Ouais.
Aux États-Unis, on achète une action Google, en France, on ouvre un livret A.
Ouais,
posez-vous la question, vous avez 20 ans, 25 ans avant que ces sommes-là soient utilisées par des enfants. Bon sang, vos enfants, ouvrez-leur des comptes titres.
Ouais, c'est ça. Prenez du risque parce que le risque, de toute manière, est allié au temps.
Vous prenez une pomme, temps dérisque votre allocation.
Voilà, c'est ça.
En finance, c'est mathématique, le temps dérisque votre allocation.
Et ensuite, il sera toujours temps de mettre ça sous une assurance vie une fois qu'on aura fait la performance.
Voilà, ou de mettre ça de côté, justement, pour vous permettre quand les personnes... C'est une très bonne logique financière. Vous avez 20, 25 ans, mettez-vous de côté une poire pour créer votre future boîte, commencer à acheter une résidence principale, très bien. Mais à côté de ça, commencer à investir, mais allez pas faire du fonds euro en assurance vie.
Voilà. Ouais, voilà. C'est pas forcément le bon moment, parce que le patrimoine, c'est évolutif aussi. Il faut jamais l'oublier. Merci infiniment de nous le rappeler, François-Xavier Seur de Terrae. Et à une prochaine fois, justement, pour déconstruire un petit peu ces idées toutes faites parfois sur le patrimoine.